Bonsoir à tous, on est vendredi soir, il est 21 h et un peu plus de 4 minutes. Bienvenue au Dojo Bar. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Méduse.
Bonsoir Mortel.
Alors bienvenue au Dojo Bar, l'émission numéro moins 1. Alors pourquoi
Moins un.
moins 1? Moins 1, c'est curieux.
Parce qu'on est dans la cave.
Parce qu'on est, voilà, on est dans le grenier, on est dans la cave, on est au sous-sol, enfin on fait un essai technique qu'on espère concluant et qui nous amènera à de nombreuses autres émissions.
Exactement. Et si vous pouvez entendre l'émission moins 1, c'est qu'elle s'est pas trop mal déroulée. Au moins techniquement sur la qualité après, on les juge de nos merdes.
Ça pour l'instant, de toute façon.
Et d'ailleurs, pour démarrer l'émission.
Ah oui, ça c'est. C'est important. C'est quoi ce coup-ci? C'est une boisson caféinée sucrée?
J'en parlerai même pas. C'était juste le bruit de l'exode de capsulage, après je la fous derrière moi.
Bon voilà, de toute façon, c'est tout pour le principe.
Voilà.
Alors, au sommaire de cette émission, on va d'abord avoir notre on refait le monde devant une binouze qui va concerner les mises à jour des jeux.
Oui.
Et ensuite, on enchaînera avec notre open bar à nous qui va concerner la PlayStation 4.
La PlayStation.
C'est le gros sujet d'actualité du moment, la PlayStation 4. Et on va commencer tout de suite avec notre tour de table de l'actu. Je crois que tu voulais pas commencer, tu préfères que je commence, si je fais
des bêtises. Et j'enchaînerai juste après.
Alors je vais commencer, donc le principe du tour de table de l'actu, quand on a des invités, malheureusement, ce coup-ci on fait en mode sans invité, c'est que chaque invité va donc choisir un événement d'actualité qui l'a marqué durant les deux dernières semaines, entre chaque émission.
Et libre après à chacun de réagir un petit peu par-dessus. Apporter sa pierre à l'édifice, son avis rapide, tout ça en max dizaine de minutes.
Ouais, voilà, quelque chose comme ça, puis après on fera une petite pause musicale. Alors moi, ce que j'ai retenu comme événement d'actualité de ces deux dernières semaines, c'est que on a eu la chance de découvrir un leak complet, enfin quasi complet, de Resident Evil 1.5. Alors qu'est-ce que c'est que Resident Evil 1.5?
Fais-nous rêver.
Je vais te faire rêver, t'inquiète pas, tu vas avoir des étoiles dans les yeux et ça va être magnifique. Donc Resident Evil 1.5, c'est tout simplement le jeu qui a été développé par Capcom juste après Resident Evil 1. C'est-à-dire que un mois après la sortie de Resident Evil 1 sur PlayStation, Capcom décide de lancer effectivement le développement de la suite. Ça paraît quand même relativement logique.
C'est logique.
Voilà, un mois après, c'est pas complètement illogique. C'est toujours mieux que de commencer le développement quand on a à peine fini le précédent jeu.
Voilà.
Et donc il lance ce truc-là, il commence à travailler les personnages, travailler le scénario, travailler le décor et ainsi de suite, travailler un petit peu le moteur de jeu en améliorant le moteur de jeu du 1. Et quelque chose comme 18 mois plus tard à peu près, il commence à présenter une première démonstration à l'E3 d'un jeu fini à, de l'avis des développeurs, entre 70 et 80%.
Ce qui est pas trop dégueulasse.
Ce qui est quand même pas mal. Et qui présentait quelques similarités avec le premier Resident Evil et aussi quelques particularités. Et il se trouve que Capcom n'était pas satisfait avec le produit qu'ils avaient sous les mains. Les 70% de développement, ils n'étaient pas satisfaits, ils trouvaient ça trop mou. Il n'y avait pas assez de relations entre le premier et le deuxième, parce que il se trouve que le personnage de Claire Redfield n'existait pas à cette époque-là. Donc il y avait vraiment deux nouveaux personnages complets pour ce Resident Evil 1.5. Et donc Capcom a décidé conséquemment de complètement annuler le jeu et de repartir à zéro au niveau développement. Il n'y a que le moteur qui a été conservé, mais le scénario, les décors, quasiment tout a été retravaillé.
Ah oui.
Voilà, c'est quand même une décision assez lourde dans ce genre de projet. T'imagines bien que tu fais pas ça complètement par hasard.
Voilà.
Et niveau pognon, c'est un peu lourd. Heureusement, ils se sont rattrapés avec de très bonnes ventes sur Resident Evil 2. Mais du coup, les fans ont commencé à appeler cette version bootleg, cette version quasiment terminée mais qui n'est jamais sortie, Resident Evil 1.5. Et il se trouve, Saint Graal du rétro gamer, que des gens ont réussi à mettre la main sur un ISO pratiquement fonctionnel de Resident Evil 1.5 en version japonaise. Et donc ils se sont mis en tête, petit groupe de fans, de le traduire en anglais. déjà, pour que ce soit un peu plus accessible, de corriger les quelques bugs qui empêchaient le chargement de certaines cinématiques, qui empêchaient le chargement de certaines pièces, parce que tout n'était pas fini, évidemment. Et donc, maintenant, ça a filtré sur Internet, et donc, on peut télécharger un ISO d'une version,
1.5.
Voilà, d'une version très alternative de Resident Evil 2. C'est quand même assez rare quand ça arrive, quand on arrive à mettre la main sur des versions de développement très très avancées. Pour moi, le seul précédent historique en la matière, c'était Star Fox 2.
Oui.
Qui n'a donc jamais sorti en boîte parce que le projet a été annulé pour être porté sur N64. Mais la ROM complète du jeu Super NES, qui est un jeu quasi fini, qui était à 90% de développement, est sortie et était disponible.
Et était jouable ?
Et était jouable. Et le toujours jouable, hein. ça tu le trouves encore, encore sur internet en cherchant un peu.
Mais ça fait déjà quelques années en plus, je pense. Hein.
Ça fait déjà quelques années, ça doit faire à peu près 10-12 ans que c'était sorti.
Parce que je me souviens qu'il y a une époque où je m'intéressais, enfin, je scrute un peu les ROM, mais où il me semblait l'avoir vu, sans trop autant savoir à l'époque ce que c'était. Et voilà. Et Resident 1.5, il est jouable aussi alors ?
Alors, il est jouable quasiment en entier. Il manque quelques trucs, je crois qu'il manque un ou deux boss, il n'y a pas de fin en réalité au jeu, il y a quelques décors de fin mais il n'y a pas d'ennemis dedans, enfin voilà. Mais il est en version jouable.
Praticable.
Voilà, c'est praticable.
C'est pas mal.
Si des gens veulent comparer Resident Evil 2, Resident Evil 1.5, aujourd'hui c'est faisable et même dans les moindres détails.
C'est pas mal du tout.
Voilà, c'est à ton tour maintenant.
Ouais. Sans transition aucune.
Et sans filet.
Récemment, c'était hier ou avant-hier, je pense, je suis tombé sur une interview de Shigeru Miyamoto, donc le papa de Mario, Zelda, etc. Le Miyamoto qu'on connaît tous, dans lequel il parlait de Luigi's Mansion 2, qui va sortir prochainement sur DS. Et il disait que pour lui, Luigi, c'était comme une salade. Alors bon, on est un petit peu dans l'imaginaire Mario... Mario le plombier, quoi, Luigi le frère du plombier.
Mais c'est vrai que c'est Mario, Mario c'est les oignons, Peach c'est les tomates, voilà, salade tomate oignon. On a bouclé le truc.
Et Toad c'est le champignon. Voilà. Et donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il parle de salade avec Luigi, quoi ? Et je me suis souvenu qu'à l'époque il y avait Pikmin en 2001 qui a été présenté sur GameCube pour la première fois en 2001, c'est trop Nintendo Space World si je dis pas de bêtises.
Tout à fait, exact.
Et Miyamoto parlait alors. Comment ça lui était venu de créer Pikmin, et tout simplement c'était en faisant son jardin. Donc on a appris que Miyamoto aimait jardiner à l'époque, et je m'en souviens encore très fraîchement parce que ça nous avait marqué. Je m'en souviens encore comme de dernière performance aux toilettes ce midi. Alors pour l'histoire, j'ai fait une pizza aux épinards et elle avait un goût de cheval roumain. Ça c'est un carnage digestif, c'est pas la peine d'aller plus loin avec ça. Bref, ça nous a pas mal retourné le cerveau à l'époque Pikmin, donc aujourd'hui encore on s'en souvient comme de ma dernière performance aux toilettes.
Non mais c'est bien d'arriver à comparer quand même ce chef-d'œuvre qu'est Pikmin au dernier étron que t'as pondu. Je trouve quand même qu'il y a de l'homme derrière.
Tu vas voir, c'est pas anodin parce que la suite va te montrer pourquoi en fait. Déjà bien avant Pikmin, on aurait pu se douter que Miyamoto avait la fibre jardinière et qu'en fait à peu près toute sa carrière tourne autour des fruits et légumes. Ouais, à l'époque, moi j'avais un ami qui avait un magasin de jeux vidéo et on en discutait avec lui. Il me disait, Méduse, quand même Pikmin, le type, tu vas pas me dire qu'il se promenait dans son jardin. Il dit, tiens, je vais faire un des Pikmin machin avec un Captain Olimar qui doit retrouver ses pièces de vaisseau. Et voilà, et mon pote qui tenait son magasin de jeux vidéo. Quelques années plus tard, à la sortie de la DS avec Nintendogs, là on s'est dit, si c'est Miyamoto qui est derrière tout ça, c'est encore une idée saugrenue, et Nintendogs c'est forcément une histoire de porno zoophile qu'il a dû tourner en secret dans son salon à une époque où il avait peut-être besoin de thunes, parce que Pikmin s'était pas vendu comme il le voulait ou quoi.
Donc ton principe c'est genre quand il a programmé Donkey Kong, le tout premier, l'arcade classique Donkey Kong, c'est il montait à une échelle dans ses toilettes, et il s'est dit tiens on peut faire un jeu avec quoi.
Je vais venir à vous la plomberie après qui a débouché sur Mario quoi, et donc enfin... Avec mon pote qui avait son magasin de jeux vidéo, ça a été très facile. Après la sortie de Nintendogs, il a juste fermé le magasin, il est parti travailler dans autre chose. Mais on va revenir sur le jardinage. Et donc cette semaine, Miyamoto a dit que Luigi était comme une salade. Bonne nouvelle, Shigeru est toujours à bloc sur les végétaux. Et du coup, il a quand même 60 balais, Shigeru, quoi. Pour un vieux légume, c'est pas trop mal. Et donc, tout a commencé en fait en 1984. Miyamoto venait de contre Donkey Kong, le voilà, on reconnaît la musique qui vient aussi qu'on retrouve dans Nintendo Land.
Je ne te confierai pas un amplificateur 8 bits, mais dans le principe, ouais.
Je ne m'en confierai pas non plus. Faudra inventer le 2 bits pour moi, tu vois. Son A, son B, et puis voilà quoi. Et bref, à l'époque, donc Miyamoto 84, Donkey Kong. Premier gros succès professionnel, Miyamoto à la banane. Qu'est-ce qu'il fait? Il se paye une caisse de fou. Et donc on sait tous qu'en fait dans les voitures japonaises, déjà depuis les années 50 ou 60, l'accélérateur il est pas comme chez nous. Il est un petit peu plus rond et un petit peu plus en relief. Il est moins plat en fait. Ne me demandez pas comment sont les pieds des Japonais, j'en sais rien, mais il se trouve que leurs bagnoles sont comme ça. Et du coup, un jour en montant dans sa bagnole, Shigeru a juste avant marcher dans un... Vous voyez, une substance excrémentale animale.
Une défection canine.
Voilà, une défection.
Une déjection canine.
Ouais, canine, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'elle était assez énorme puisqu'elle a complètement ruiné sa pédale d'accélérateur.
Alors, c'est-à-dire que, effectivement, si tu commences à promener ta vache pour lui faire faire ses petits besoins dans le caniveau, ouais, c'est sûr que ça a mal tourné. Hein.
Surtout juste devant le garage de Shigeru, quoi.
C'est quand même pas gentil, quoi.
Quand même. Donc, le type, bon, notre ami Miyamoto, il monte dans sa caisse, il ruine complètement la pédale, et il regarde ça, il dit, mais pourquoi? Forcément, il est au 36e dessous, quoi. Il a ruiné à peu près la moitié de ce qui était praticable dans sa voiture, c'est-à-dire les pédales, accélérateur et frein. Et là, du fait de la forme de la pédale qui était assez courbée, etc., il s'est dit, mais il faut que je fasse un truc avec ça, quoi. Et il s'est dit, mais voilà, j'ai mon ennemi principal de Mario Bros, j'ai mon Gumba, ma pédale en forme de champignon, d'où l'expression appuyée sur le champignon d'ailleurs, qui venait d'être ruinée par une grosse merde, c'est mon Gumba. Et je sais pas pour vous, mais moi depuis...
Alors je sais pas pour les auditeurs, moi j'y crois pas une seconde. Je précise quand même.
Mais tu vas comprendre, tout est lié. Jusqu'au tuyau dans Mario Bros, qui n'est pas anodin, les gombas qui sortent des tuyaux, c'est pas pour rien non plus dans Mario Bros. Dans Mario Bros 3, c'est juste de la merde qui remonte, quoi. Et moi,
C'est un reflux merdique.
C'est un reflux merdique. Et moi, je sais pas pour toi, mais depuis que j'ai appris qu'il y avait des gombas qui pouvaient sortir de mon cul, je joue plus à Mario de la même façon, quoi.
C'est
avant, quand tu joues à Mario, t'es un Gomba, tu sautes dessus, quoi.
Ouais, voilà,
maintenant, je l'évite parce que je me dis que si je saute dessus, j'en fous de partout sur les plateformes.
Ouais, voilà,
sur la pièce,
moi, du coup, j'aurais un peu moins de pitié à les faire brûler,
ouais,
tu vois. C'est vrai que ça fait partie des trucs.
Mais carrément. Verre d'eau. Et du coup, alors, le pire, c'est les gens qui jouent en coop, quoi. Parce que bon, t'imagines que tu joues un des deux joueurs qui joue Luigi, l'autre qui joue Toad. Et donc, comme on peut dans New Super Mario Bros prendre son coéquipier sur ses épaules, tu prends ton coéquipier sur tes épaules, t'as Luigi et Toad ensemble qui sautent sur un Gomba, ça fait une espèce de salade champignon avec du caca comme vinaigrette, quoi. Moi, je dis, chez Nintendo, c'est quand même des putains de scatophiles. Honnêtement.
Alors bon. Ok, non mais c'est vrai. Non mais c'est effectivement vu comme ça, ça ressemble à un énorme sandwich à la merde avec un peu de salade
moi,
à côté.
Et moi, je pense que depuis 84, il avait tout prévu, quoi. Et du coup, j'aimerais vraiment pas voir les pornosophiles qu'il a tourné à l'époque de Nintendo. Et quand on aura le DLC Super Luigi U qui va sortir en fin d'année, qui va apporter toute une série de niveaux spécifiques à un New Super Mario Bros. Wii U jouable avec Luigi, je crois qu'on va tenir là vraiment le fécal burger de luxe à la salade. Et à côté de ça, McDo, ça va être du 3 étoiles, quoi.
Mais bon. Non, ouais. Mais du moment que tu peux avoir les grandes frites à côté, pas de problème.
Ouais, mais enfin, bon, tout dépend de l'odeur, quoi, après. Et de l'assaisonnement, bien sûr. Parce que bon, tu vois, si la sauce, ça commence. Si le burger commence à devenir la sauce pour les frites, on va pas en sortir, je pense.
Bon, ouais, bon appétit, bien sûr.
On va retourner à l'histoire de Miyamoto avec l'histoire avec un grand I, parce que j'écris histoire comme je veux. En 1987, donc on a eu Super Mario Bros 2, qui à l'époque était connu au Japon sous le nom de Doki Doki Panic. C'est un petit peu l'ancêtre de Mario Bros 2 sans Mario.
Et donc sans Bros et sans 2.
C'est un peu sans Bros. C'est un jeu, quoi. Bref. Et donc, tout le monde se souvient, tous ceux qui ont joué à ce jeu-là, évidemment, sauf les plus jeunes qui n'étaient pas encore nés et grand mal leur face, se souviennent qu'on y déterrait quelques légumes, notamment des radis, face aux chasseurs-cueilleurs. Je crois que Shigeru te donnait déjà le vice pré-Nintendox, pré-porno-Nintendox dans Super Mario Bros. 2, parce que je suis certain qu'il spignolait le radis en jouant Luigi la salade, quoi. Et évidemment, nous aussi on l'a tous fait. Qui n'a jamais mis son radis dans une salade, quoi?
Je
t'oseras pas le dire.
Ouais, moi j'aurais plutôt tendance à mettre ma carotte dans la sauce, mais chacun son truc, hein, j'ai envie de dire.
Mais bon, je sais.
Si ton fantasme c'est les radis, je peux rien dire.
Plutôt les salades. Salades. Ouais. Mais pour sortir. Pour sortir un petit peu du registre scatophile, mais pour rester quand même dans les légumes et les jolies choses vertes de mère nature, on se souvient de Zelda 3, tous sur Super Nintendo en 91. Zelda 3 pour tout le monde, c'est un jeu d'aventure action avec Link dedans, des grosses références. Et en fait, ce que personne n'a pu voir, n'a pu lire dans Zelda 3, c'est que Zelda 3 c'est aussi un simulateur de déforestation. Tout a commencé dans Zelda 1, parce que Miyamoto il anticipe toujours un petit peu sur NES qui va se produire sur les prochaines machines. Et on se souvient, dans Zelda 1, on pouvait brûler des arbres à la bougie pour découvrir certaines entrées de donjons, des petits passages. Voilà, ça restait modeste vu que c'était sur NES et tout ça. Mais alors, quand même, dans Zelda 3, on n'est plus à la bougie, quoi. On est dans les coups d'épée dans les fougères, les attaques tournoyantes, les bombes dans les buissons, les piétinements d'herbe avec les bottes de Pégase, les frères bûcherons qui ruinent des arbres qui devaient être au moins 5 fois centenaires. Bon, à côté de ça, Zelda 1 c'était déjà, c'est petit, quoi, quand même. Là, avec Zelda 3, on a quand même le plus gros simulateur de déforestation de l'histoire du jeu vidéo. Et je pense que déjà Miyamoto, là, il avait des frustrations au niveau de sa vie jardinière, et je pense qu'il avait besoin de se défouler. Donc quand on vous dit que Zelda 3 c'est le meilleur jeu d'aventure de la Super NES, non, c'est le meilleur simulateur de déforestation de l'histoire du jeu vidéo, qu'on a déguisé discrètement dans un jeu d'aventure.
Et ça, c'est une façon de voir les choses.
Bon, on pourrait comme ça balayer toute l'histoire de Miyamoto depuis, parce que là on est seulement en 91, on a à peine fait 10 ans. On pourrait tout balayer, mais on va pas le faire, évidemment, parce que bon, voilà. On va retourner maintenant sur l'histoire de Luigi's Mansion, qui va sortir prochainement. Et pour vraiment ancrer dans la tête de tout le monde que Miyamoto c'est un jardinier dans l'herbe, n'oublions pas que maintenant que Luigi's Mansion va sortir, Miyamoto bosse aussi simultanément sur Pikmin 3, qui est évidemment son jeu sponsorisé par Mavert et José Bocco. C'est que le gamepad a plusieurs détachements de Pikmin pour mener des actions coordonnées. Et là, je pense que Miyamoto songe à sa retraite et songe à investir dans une ferme dans laquelle il enverra des détachements d'esclaves exploiter les différentes parcelles pour lui ramener un max de pognon une fois que Nintendo aura... Ce sera reconverti.
Non, mais d'ici effectivement, est-ce qu'ils se mettent au lancer de main?
Ouais.
Il y a peut-être pas 5 bornes. Hein, parce que là, c'est parti, quoi.
Et je pense que si on avait dit mieux. Prévoyait une ferme et exploiter les gens, n'aurait pu prévoir directement ce qu'il allait se passer dans Pikmin 3. Mais je pense même qu'on aurait pu aller plus loin. Il y a 2 ans, il y a eu Fukushima. Et je pense que dans Pikmin, ça va se ressentir. Et qui prévoit d'ajouter des salades dans Pikmin 3, et du coup, on n'est pas dans la merde. Voilà. Merci pour votre attention. Cette chronique n'a pas été écrite aux toilettes.
Non, voilà. Je crois deviner qu'elle n'a pas été écrite aux toilettes. Bon, il est largement temps de marquer une première pause musicale.
Ni dans un état conscient.
Ah, dans un état conscient, ça, j'en doute pas. Hein, dans un coma éthylique relativement avancé. Alors, je dois vous avouer que je ne sais pas ce qu'on va écouter comme pause musicale, parce que je n'ai pas vérifié. Voilà, c'est Pornophonic Space Invader.
Tu vois, encore du porno.
C'est encore du porno. On se retrouve dans 3 minutes.
Rebonjour et re-bienvenue, on espère que vous ne vous êtes pas perdu aux toilettes pendant la petite pause musicale.
Ah, ça, ce serait quand même bien dommage.
Voilà, on va passer maintenant sur notre rubrique mortelle. Le nom de la rubrique.
Ah, on refait le monde de Ron Pinouze.
Exactement, santé.
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 Et cette semaine, on aurait voulu parler un petit peu des mises à jour dans les jeux vidéo. Hein. C'est vrai que pour...
la binouse.
Le bruit de la binouse.
La binouse. La classe.
On a le... Alors moi, personnellement, j'avais pas tellement l'habitude, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques années que on se tape de plus en plus de mises à jour dans les jeux. Et je sais pas, j'ai l'impression que de plus en plus, le service qualité de chez Monsieur Ubisoft et Monsieur Activision fait pas très très bien son boulot, parce qu'ils nous sortent des jeux à peine finis.
Voilà. Finis à la pisse.
Quand ils sont finis. Enfin, c'est quand même un peu dégueulasse. Donc, on nous vend des jeux en kit, à la limite. Ça pourrait presque se comprendre. Par contre, quand on vend un jeu pas fini dans lequel t'as pratiquement une mise à jour chaque fois que t'allumes la console, c'est vrai que c'est quand même
ça fait moyen. Alors déjà moi les jeux en kit j'ai du mal. Et alors les jeux pas finis avec 11 000 mises à jour, non merci. Donc qu'est-ce qui se passe?
Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on est passé d'un monde dans lequel on avait quelques bugs quand même, faut pas exagérer, mais finalement relativement peu, en tout cas pas de bugs gênants.
Oui. Un monde où les mises à jour servaient plutôt à de léger correctif ou d'apport de contenu plutôt que de vrais correctifs de jeux pas finis.
Parce qu'il y a quand même eu un... Oh là, attention Méduse, là, ton micro est parti en sucette.
Il revient.
Non, on est passé d'un monde, je sais pas, l'ère 8 bits, l'ère 16 bits, dans lesquels finalement les seules corrections qu'il y avait, les très rares corrections qu'il y avait, c'était en général entre la version US et la version PAL. T'avais une version très légèrement mise à jour avec un petit peu moins de bugs, mais c'était pas des bugs gênants pour finir le jeu. On est quand même passé à un monde où il y a quelques bugs, enfin il y a quelques jeux qui sortent et qui sont infinissables, quoi.
Exactement.
C'est quand même assez gênant.
Exactement.
Je prends le souvenir d'un exemple sur qui perdent leur sauvegarde, Mass Effect 2 ou 3, où il a fallu attendre je sais pas combien de semaines pour avoir simplement la possibilité d'importer ta sauvegarde du jeu précédent.
Ou même Zelda Skyward Sword, où il y avait il y a un moment du jeu où on est assez libre de faire les choses dans un certain ordre, et si on le fait dans un ordre particulier, on peut paumer sa sauvegarde carrément.
On peut plomber
sa
sauvegarde.
Ça a été corrigé par après. Nintendo a mis en une chaîne Wii qui est en fait un patch destiné, il me semble, à récupérer la sauvegarde. Mais grosso modo, ça a mis quand même, je crois, quelques petites semaines à arriver. Ce qui est assez, une fois le bug découvert, ce qui est assez limite
assez,
quand même.
Ouais,
surtout
c'est
pour
assez,
un jeu
assez déstabilisant.
Surtout pour des jeux qui sont censés être d'une grande finition.
Non, mais même tu regardes, c'est bon. Alors, il y a le côté agaçant du tu démarres ton jeu et puis tout d'un coup t'as le machin qui est mis à jour et puis t'es obligé de prendre 10 minutes pour que la mise à jour se fasse. Heureusement, sur la plupart des consoles maintenant, on peut dire non, je m'en fous, je la fais pas maintenant.
Ouais.
Le problème, c'est que souvent pour le multijoueur, t'es un peu obligé.
Voilà, exactement, ça passe quand tu veux jouer solo.
Mais voilà, tu vois qu'il y a des mises à jour pour des jeux comme, je sais pas, je pense à Warcraft 3, World of Warcraft, Starcraft 2, des
jeux
comme
ça. Ouais, Team Fortress ou quoi, ouais.
Voilà, c'est de l'équilibrage, effectivement des bugs qui ont été découverts et qui peuvent mener à de la triche. Pour tout ce qui est multijoueur, ça me paraît effectivement relativement indispensable.
Exactement, d'autant plus qu'il faut que tout le monde ait la même version pour jouer. Je veux dire, tu joues pas
CS
1.6 avec un type qui a la version 1.4, quoi.
Par contre, c'est vrai que pour des jeux solo, je trouve ça super choquant que l'équipe qualité, simplement, le post-développement, ait pas repéré des bugs qui empêchent le finir le jeu.
Ouais.
Skyward Sword, c'est vrai que c'est un bon exemple. Il suffit de faire une action qui est pas tout à fait prévue dans le bon sens, et puis tout d'un coup, tout plante.
Bim.
C'est pas normal que ça ait pas été repéré juste avant la sortie, quoi, que ça ait été corrigé.
Ouais. Je crois que pour Zombie U, il y a eu le même problème aussi, non?
Ah, je saurais pas dire, j'ai pas eu de problème.
Je crois qu'il y a eu ce genre de soucis, et là c'est un petit peu moins étonnant que sur un Skyward Sword, dans la mesure où Zombie U, il devait absolument le sortir le jour de la sortie de la console, et puis
on sait bien
comment ça a été après, voilà, un petit peu...
Je sais pas, après, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir des jeux qui sont en bêta permanente et qui sortent à l'heure, ou des jeux qui sont retardés pour être
mieux
finis?
Non, les jeux peuvent être retardés de 5 ans tant qu'ils sont bons, quoi, y a pas de problème. De toute façon, y a plein de jeux à faire en attendant, donc c'est pas qu'on a comme des crevards avec zéro jeu sur nos machines. À moins de n'avoir qu'une seule machine, pour les gens évidemment qui n'ont qu'une seule machine ou qui arrivent dans le monde du jeu vidéo, c'est un petit peu pénible de voir soit les jeux sont sortis et finis à pisse, ou soit qu'ils sont reportés de 1500 ans parce que en attendant ils sont à la pisse.
Je sais pas, parce que c'est quoi le plus frustrant? T'achètes un jeu 70 boules dans le commerce, tu le mets dans ta console, tu joues 4 heures et là tout d'un coup le machin te plombe toute ta sauvegarde. Je pense que j'aurais préféré l'acheter la semaine d'après, tu vois.
Ouais, c'est ça, quoi.
Alors, après, je sais pas,
minimum.
Alors je sais que la période de Noël, il y a quelques périodes comme ça très chargées où de toute façon, ouais, voilà, faut les sortir et puis voilà. C'est tout. Mais je trouve ça quand même étonnant parce qu'avant, il n'y avait pas la possibilité de faire des mises à jour. On va dire que c'était extrêmement limité.
Ouais, exactement.
Et t'avais quand même très peu de jeux où il y avait des bugs très graves comme on en a connu ces 3, 4, 5 dernières années.
C'est vrai, c'est vrai. Ça restait quelque chose d'assez marginal. Maintenant, même les consoles, elles sortent avec...
avec des firmwares buggés qu'il faut mettre à jour.
T'achètes ta Wii U, t'es obligé de mettre à jour, quoi. Tu vois, c'est fou, quoi.
Ouais, je trouve ça assez dingue, quand même, de sortir des produits pas finis, c'est quand même assez... Ouais. Ne serait-ce que d'un point de vue image de marque, en plus, c'est quand même pas terrible, quoi.
Mm-hmm, c'est clair. D'ailleurs, moi, ma Wii U, je l'ai eu moins cher, c'est parce que c'est une qui est revenue... Enfin, qui avait été renvoyée à Nintendo... Enfin, qui avait été renvoyé au magasin, quoi, par un type qui était saoulé par la mise à jour ou qui s'en sortait pas avec la mise à jour. Et du coup, le magasin après l'a revendu moins cher, quoi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que ma Wii U, je l'ai eu moins cher. Le type a juste pas fait la mise à jour, il a pas créé de compte ni rien. Et donc, voilà. Je me dis, bon, ben, ça fait un type qui a pas été satisfait par la Wii U, alors que c'est quand même une chouette machine. Enfin, moi, j'étais content, j'ai ma machine moins chère, mais derrière, il y a quand même. Ouais, non, mais c'est super... perd des clients, quoi.
Non, mais voilà, je sais pas si t'imagines la situation un peu galère. Enfin, t'imagines quand t'étais petit, tu recevais ta console à Noël, t'étais super content.
Ouais, tu branchais, tu jouais.
Voilà, tu branchais, tu jouais, tu te préoccupais pas. Aujourd'hui, là, déjà, tu reçois ta console à Noël, bon, à minuit, si t'ouvres le cadeau à minuit, la mise à jour, elle est peut-être finie vers 1h30 du matin.
Ouais, voilà. Dans le meilleur des cas. Entre temps, il faut avoir chargé le gamepad, puis il faut pas oublier qu'après, tu dois configurer ta connexion internet, créer ton compte, machin, tout ça. T'en as pour 3 jours avant de jouer, quoi.
Voilà, mais le simple fait, cette simple mise à jour de départ, mais même, je sais pas, enfin, c'est quand rebutant. Même un peu du délire, c'est extrêmement rebutant, même, ouais. De se dire, finalement, tu t'avais le même phénomène un peu sur Steam il y a quelques années, je sais pas si tu te rappelles, où
ouais,
il y avait un GIF animé assez...
utilisateur de Steam, donc...
ça, je sais bien, c'est pour ça que je le cite comme exemple. Ouais. Il y avait un GIF animé, chaque fois que t'allumais Steam, quasiment, il y avait une mise à jour, enfin, si tu pouvais l'allumer 3 fois par jour, t'avais une mise à jour, c'était du délire, quoi.
Steam, enfin, maintenant, ça s'est un peu calmé, mais jusque... Enfin, on va dire ces 3 dernières années, tu avais une mise à jour tous les 4-5 jours, quoi, pour une petite fonctionnalité, un machin, un petit détail, un petit truc.
Ouais, et puis à chaque fois, c'était
selon
4,
les régions,
5,
tout
20,
ça.
30 mégas.
Ouais, et d'autant plus que maintenant, Steam est disponible sur Mac, il est disponible sous Linux, donc ça commence à devenir pas une usine à gaz, parce que le programme est beaucoup plus... Enfin, c'est quand même un programme performant, qui est bien foutu, tout ce qu'on veut, c'est vraiment chouette. Mais ouais, c'est plein de mises à jour. Alors le truc hallucinant, c'est Team Fortress 2. Donc Team Fortress 2 qui est sorti en 2007, qui était disponible dans l'Orange Box avec Portal et les épisodes 1 et 2 de Half-Life 2. Et donc Team Fortress 2, qui était déjà dispo pas cher en standalone aussi, je crois qu'il était vers les 20€, qui est vraiment très bon, bref, passons, et qui est passé en free-to-play, c'était en 2011
c'était,
ou 2012.
Ouais,
et ce que je trouve... génial avec Valve, mais en même temps je trouve que c'est un petit peu la norme et la base, c'est qu'ils rajoutent tout le temps du contenu, c'est toujours gratos le contenu supplémentaire, même quand le jeu passe en free-to-play, mais depuis que le jeu passe en free-to-play, ils font une mise à jour tous les 4 jours, quoi, tu vois. Donc t'as ton petit...
qu'est-ce qu'ils peuvent bien rajouter dedans?
Peu importe, quand t'as une bonne connexion, tu t'en fous s'il y a 200 mégas, 300 mégas, qui rajoutent une map, un équilibrage, des objets, des chapeaux qu'il faut payer pour les cons qui aiment bien payer, ce genre de trucs-là, mais tu te dis que c'est quand même hallucinant, quoi. Ils peuvent pas faire juste un gros paquet tous les 3 mois, je sais pas, quelque chose comme ça, plutôt qu'une mise à jour tout le temps.
Non, mais surtout, tu vois la taille des mises à jour, c'est pareil.
Ouais.
Sur...
Ouais, voilà.
Tu vas me dire, les jeux sont de plus en plus gourmands en espace disque, mm-hmm. Donc c'est un peu logique que tu aies des mises à jour de plus en plus gourmandes, mais je sais pas, je crois que le pire truc en fait, c'est surtout que t'as pas l'information de ce qui a été corrigé.
Ça dépend, pour Team Fortress 2, tu l'as facilement. Après,
Team Fortress 2, tu l'as sur ta Wii U, tu l'as pas, quoi. Le machin, il te dit mise à jour,
ouais,
il télécharge
voilà,
300 mégas, le jeu démarre,
exactement.
Il y a marqué version 1.02 au bout de l'écran, et tout ce que tu sais, c'est que tu viens de poireauter 10 minutes pour rien.
Voilà, exactement. Ouais, d'autant plus que sur Wii U, c'est hyper lent, quoi. Le dernier firmware qui est sorti avant, bref, je sais pas quand, ou la semaine d'avant, 30 mégas, il met 3 minutes à se télécharger, quoi. 30 mégas, mais on est où ici, quoi?
Non, mais voilà, c'est quand même assez impressionnant d'arriver à faire autant de...
Et puis en plus, après, si tu veux savoir ce qui a été modifié, il faut que tu ailles commencer à chercher sur le site officiel de Nintendo, dans le support, machin. Alors, quand c'est Nintendo, ça va, parce que bon, tu finis par être habitué à savoir où sont les mises à jour, les notes de mise à jour.
Mais ça, c'est qu'au bout d'un moment, t'en as plus rien à foutre aussi.
Ouais.
T'as le phénomène inverse, où t'es tellement saoulé de faire les mises à jour, tu regardes même plus ce qui est dedans, tu vois. Tu te dis, ok, c'est bon, vas-y, fais la mise à jour, je vais aller
voilà.
Couler un bronze, faire autre chose, la vaisselle, je sais pas quoi, mais vas-y, fais-la.
Exactement, ouais, voilà, mais c'est exactement ce que j'ai fait en installant la Wii U, quoi. Même Nintendo Land, il y avait 300 mégas de mise à jour, quoi.
Pour, en plus, ouais, voilà, enfin, voilà la gueule du jeu, quoi. Tu as 300 mégas de mise à jour pour un jeu où il y a 12 mini-jeux.
Voilà, le jeu avec, il pèse déjà 600 mégas maximum, là. Quand on enlève les musiques, il pèse 600 mégas.
Non mais c'est du délire. Ouais. Pourquoi faire une mise à jour de ça? En plus, alors là on le sait, en plus c'était pour intégrer l'univers, le truc qui sert à rien.
Et ouais. Et qui est théoriquement intégré à la sortie de la machine, quoi.
Enfin, et qui était pas intégré dans le firmware de base.
Ouais. Hein. Ah oui, c'est pour ça.
En plus, non mais les mecs, c'est la grosse feature de la machine, c'est le truc qu'ils nous présentent depuis des mois et ils le mettent même pas dans le firmware de base.
Ouais, moi j'ai halluciné, quoi. Parce que je trouvais que la présentation du univers c'était pas dégueulasse, tout. Je me suis dit, ouais, on va avoir un truc assez chouette. Un Facebook-like qui sert pas à rien. Et puis, effectivement, les mises à jour. Mais ça a toujours été foireux. Alors, moi, c'est les types qui jouent à Call of Duty sur Wii U. Pour aller chercher les notes de mise à jour, là, c'est la galère. Faut carrément aller sur les forums d'Activision ou Treyarch ou je sais pas quoi. et pour décrypter en plus, faut aller réussir à décrypter ce qu'ils ont voulu dire dans leur correctif. C'est un peu la misère, quoi.
Mais maintenant le fusil tire. Merci beaucoup, Captain Obvious. Franchement, voilà,
ouais,
merci,
c'est ça, quoi.
Sincèrement, bravo. Bien joué.
Bravo, merci.
Mais non, rigole pas, mais j'ai vu des correctifs comme ça. Je ne sais plus si c'était. Je crois que c'était Warcraft 3 ou c'était. Maintenant, le prêtre peut soigner. En fait, le prêtre a toujours soigné. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le patch suivant, t'avais le truc genre. Le prêtre peut plus soigner finalement. Tu dis, mais merde, mais il soigne toujours, les gars. Qu'est-ce que vous racontez? Voilà, c'est des allers-retours en plus, des allers-retours de fonctionnalité.
Ouais.
Ce genre-là, c'est quand même vite agaçant.
Exactement. Mais Blizzard fait pas mal ce genre de truc pour World of Warcraft, vu que le jeu. Comment expliquer ça? Donc le jeu, il a ses extensions évidemment qui sortent toutes les deux ans, tous les ans sont les périodes de vie du jeu. Et en plus de ça, régulièrement il y a du contenu qui est ajouté, donc donjons, des champs de bataille, PVP, genre de trucs là. Et parallèlement à l'ajout de matériel, forcément les classes deviennent déséquilibrées parce que certaines classes profitent mieux du matos que d'autres. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils changent un peu les classes, ils ajustent, ils font des modifications. Et donc un coup ils te redonnent un sort pour une classe, puis ils l'enlèvent au prochain pas, puis ils le remettent après. Ce qui fait que le gameplay évolue assez souvent et c'est assez chouette. Mais effectivement, pour les gens, moi ça va, quand je jouais, je suivais le bazar de près, quoi, tu vois.
Ah, mais si t'as pas allumé ton jeu pendant un mois, tu te retrouves largué, tu retrouves plus rien.
Enfin, moi ça va encore, mais il y a des types qui arrêtent 6 mois et reviennent, ils font bon, c'est plus le même jeu, quoi. Déjà d'une extension à l'autre, il y a des types qui sont paumés, quoi. Il y a des gens qui sont largués, c'est un peu normal. Et là, c'est carrément la jungle. Surtout que WoW, vu que c'est un MMO, c'est dépendant des serveurs, évidemment. Et l'infrastructure Blizzard, ça va. Enfin, pas quand ça va, quoi.
Ouais, mais ça,
il y a quand même eu pas mal de périodes de bataille. Ouais. Mais souvent, il y a une tradition chez Blizzard, on dit patch day, no play. Parce qu'on sait bien que quand il y a la mise à jour, quand il y a un patch, on sait bien qu'après les serveurs vont planter pendant au moins un jour.
Faudrait peut-être faire ça sur Wii U aussi. Hein,
ouais.
Faudrait peut-être faire ça sur Wii U, c'est genre le samedi, tu joues pas, quoi.
Ouais,
c'est pas la peine, de toute façon la console elle va se mettre à jour.
C'est carrément ça, hein. tu pouvais te brosser comme tu voulais. C'est rare quand il y a eu des patchs majeurs qui n'ont pas conduit à au moins une journée d'impraticabilité du jeu. Putain, c'est long.
Impraticabilité. Putain, t'as fait un mot de plus de 5 syllabes. Je pense qu'on va faire une pause musicale sur ce mot de plus de 5 syllabes parce que c'était magnifique. Parce que franchement là je vois rien à rajouter de plus, hein, je veux dire. Donc on va faire une deuxième petite pause musicale. On va s'écouter je sais pas quoi parce que j'ai mal préparé mes playlists. Voilà, c'est pas du tout à l'arrache que l'émission. C'est ambiance.
C'est pas le même morceau que la première. Voilà,
quelqu'un veut meubler. Ah non, c'est pas le même morceau, mais c'est. Donc on va se mettre un autre petit truc, je vais vérifier ce que c'est. Voilà, c'est un extrait de Super Mario Galaxy 2 qui est Cloudy Cart Galaxy.
Magnifique.
3 minutes 42, on se retrouve tout de suite après pour notre petit truc sur la PlayStation 4. Et nous voilà de retour après cette petite pause musicale pour aborder notre troisième sujet, l'open bar. Donc là où on raconte vraiment n'importe quoi, faut dire que à force de boire de la bière depuis
tout à l'heure. Ah, on n'était pas dans l'open bar avant ?
Ah non, c'était pas l'open bar.
Ah, mais si j'aurais été un peu plus sérieux.
Ça, c'était le sujet sérieux.
D'accord.
C'est pas ce que tu vois, là c'était le sujet sérieux. Donc c'est pour te dire, cher auditeur, ça va vraiment partir en cacahuète maintenant.
Ouais, mais c'est la binouze.
C'est... Ah ouais, non, mais voilà, c'est horrible ce qu'on peut faire pour de la bière.
Et donc, notre sujet pas sérieux, notre open bar.
Notre open bar dédié à la PlayStation 4, parce que c'était quand même le gros événement du mois de février. Non,
février.
Ça fait quand même un petit moment que c'est sorti.
22,
la conférence où Sony a quand même réussi l'exploit à ne pas présenter la console. Hein,
le lecteur Blu-ray,
pas
tu
de
veux
design.
Dire
Ah oui, le lecteur Blu-ray avec option
jeu. Attends, le Media Center évolue quand même.
Ah, le Media Center. Alors, il y a le Media Center. Alors, ça fait quoi maintenant? Parce que alors, la PS3, il paraît que ça fait tout. C'est le slogan américain, hein, la PlayStation 3, c'est « It does everything ». À chaque fois qu'il y a une pub, c'est « ça fait du Blu-ray, ça fait de la VOD, ça fait du jeu, ça fait tout ». Donc, qu'est-ce qu'ils ont bien pu rajouter de plus? C'est quand même...
Et on se le demande, parce que la 360 faisait déjà tout à part les Blu-ray, mon PC il fait déjà tout, je sais pas. Qu'ont-ils ajouté donc?
Qu'est-ce qu'ils ont réussi à nous ajouter?
Des fonctionnalités à la con?
Alors, ils ont réussi à nous ajouter du social gaming. Ça, c'est quand même la grande mode, c'est-à-dire qu'en fait, dans le Miiverse... C'est un peu ridicule déjà à la base parce que c'est pas très très lisible, on va dire. Un jour il faudra qu'on fasse un open bar, je pense, sur le Miiverse parce qu'il y a quand même, à mon avis, il y aurait beaucoup de billes à déverser.
Pensé, mais je l'avais pas encore noté dans la liste des machins, mais carrément, ouais.
Parce que je pense qu'effectivement il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, ils vont nous faire du social gaming. Alors, la grosse question que je me pose moi pour l'instant, c'est est-ce qu'ils vont faire comme Nintendo, c'est-à-dire un système finalement très fermé? Ou est-ce qu'ils vont s'appuyer sur, je sais pas, un leader de l'industrie du social gaming, genre Zynga, genre Facebook, genre Twitter? Est-ce qu'ils vont s'appuyer sur un gros, un truc déjà existant? Ou est-ce qu'ils vont s'appuyer sur un truc interne? S'ils s'appuient sur un truc déjà existant, est-ce qu'il faudra se connecter à son compte Facebook pour jouer à un jeu? Moi, je serais très curieux de voir ça, quand même. Ça me ferait beaucoup de sourire.
Moi, je pense qu'ils vont s'appuyer sur une rambarde tombée. Ça va faire du mal.
Effectivement,
c'est tout ce que ça m'inspire. Mais...
c'est la seule chose que ça t'inspire. Et donc, ils ont rajouté.
Sérieusement, je pense qu'ils vont faire un truc interne et qu'ensuite, ils vont faire comme Microsoft sur la 360, mettre des applications Twitter, applications Facebook, tu vois.
Ouais, ils vont rajouter les applications
avec
à côté.
Voilà. Mais qui vont être liées au machin interne, je pense.
Parce que c'est pas forcément idiot, mais c'est vrai que ça sert quand même pas à grand chose, quoi.
Ouais, non, rien.
Alors après, dans les nouveautés annoncées aussi, on a le streaming direct des jeux sur Internet. Alors là, c'est pareil. Est-ce que ça va être un service interne à Sony ou est-ce que ça va être...
Ils ont racheté Gaikai.
Ah, ils ont racheté Gaikai, mais je parlais pas de ça. Je parlais de streamer tes parties.
Ah oui.
On en parlera un petit peu après du streaming de jeu, mais effectivement, la fonction sur la manette qui te permet en une touche d'aller streamer directement ce que tu fais, quoi.
Alors là, c'est vrai que c'est la grosse inconnue. On pourrait se dire, bon, est-ce qu'ils vont s'appuyer sur YouTube ou sur Twitch TV
sur un truc interne. Là, c'est vrai que ça reste assez mystérieux. Je sais pas si ça intéresse beaucoup beaucoup de monde, ce genre de choses. C'est vrai que c'est quand même assez à la mode.
C'est assez à la mode. Il y a pas mal de joueurs qui aiment ça, notamment les joueurs de FPS ou de jeux de stratégie ou de trucs style League of Legends ou quoi. Ça marche assez bien dans le monde du PC, ça marche assez bien pour les consoles, pour les FPS genre Call of Duty et Battlefield, et pour certains jeux de baston.
C'est jamais du streaming en direct, c'est systématiquement des trucs enregistrés qu'on remet derrière.
Non, c'est en direct.
Il y a des trucs en direct, il y a des mecs qui streament leur PS3 en direct déjà aujourd'hui.
Bien sûr, mais depuis ça fait déjà un petit temps, hein. Mais vraiment.
Ah, attends, je savais pas du tout. Je pensais pas du tout que les mecs faisaient ça. Donc est-ce que c'est une option intéressante, ça, de dire on va inclure directement dans la console le logiciel qui te permet de streamer directement ta partie sur Internet?
À voir si on pourra streamer directement la partie Internet ou si le bouton cher garde en mémoire, je sais pas, les 30 dernières minutes ou tu vois. Si seulement le bouton share permet de partager les X dernières minutes de jeu qui viennent d'avoir lieu, quoi, tu vois, comme un buffer.
Ouais, comme un buffer, parce que ce qui serait dommage en réalité, enfin, je sais pas, moi, les rares fois où je me suis dit putain, j'aurais dû l'enregistrer, c'est genre, tu viens de découvrir un bug absolument hallucinant, et tu te dis, enfin, il vient de se terminer, tu te dis putain, si j'avais simplement pu avoir les 5 dernières minutes de jeu, ça aurait été génial.
Ouais, non, mais souvent. Carrément. Moi, je trouve que ça peut être une chouette fonctionnalité après avoir jusqu'où il la pousse et qu'est-ce qu'il y aura comme contrainte à ça. Est-ce qu'au moment où tu choisis de partager ta partie, tu dois attendre 3 plombes comme si tu mettais à jour ta Wii U, enfin, tu vois, avant de pouvoir continuer ton jeu, je sais pas. Ou est-ce que c'est utilisable en multijoueur? Est-ce que c'est utilisable sur tous les jeux? Il y a pas mal d'interrogations, je pense, sur ça, mais bon, après, c'est pas un truc majeur comme par exemple le Gamepad. ou lors de machin là. Quoi.
Oui, ça reste quand même une option voilà. Qui n'est pas utilisée par 100% des joueurs. Quoi. C'est un petit plus, voilà. Ça c'est clair, un petit plus non négligeable.
Et puis on verra ce que ça donnera.
Alors j'ai une question d'un auditeur qui me dit la PS3 c'est un radiateur, est-ce que la PS4 est un grille-pain? Et est-ce qu'elle fait le café, du coup?
Ah, c'est vrai que je suis pas teint.
Le café, c'est pas sûr.
Au moins réchauffer le pain ou dégeler un truc du congélo, je pense.
Ouais, tu penses plus à une fonction décongélateur, genre de décongeler comme un micro-ondes. C'est vrai que ça peut
être
pratique.
Ouais, mais va quand même falloir attendre, parce que, elle consomme beaucoup moins que la PS3 et avec la 3. PS4, elle aura un TDP, je crois, de... histoire de 80 watts, un truc comme ça, donc pas grand chose quoi.
Je me permets de pas y croire une seconde si tu.
Moi non plus, parce que bon, elle a quand même l'air d'embarquer un petit peu du costaud quoi. La Wii U pousse déjà vers les 60 watts en fonctionnement intense.
Fonctionnement intense, ouais, c'est à peu près ça sur les rares jeux gourmands de la machine.
Voilà. Mais en vrai, je crois que c'est vers les 27, un truc du genre, mais bon. Ouais, j'y crois moyennement. Si sur les 80, je verrais peut-être plus aller bien 140 ou quoi, mais bon.
Mais simplement, c'est un truc tout bête, mais...
140 pour décongeler, c'est bien.
140, c'est pas mal.
Moi, je le fais à 360, c'est bon quoi. Mais la 360, c'est déjà quand même 200, donc...
Alors, il y a deux trucs, en fait, importants. C'est qu'il y a la RAM est probablement unifiée. C'est de la GDDR5 qui dégage énormément de chaleur déjà, donc d'un point de vue grille-pain, ça peut peut-être être pas mal, surtout que c'est assez réparti en fait. Donc s'ils se démerdent bien, ils arrivent à nous le répartir sur une belle grille et puis on aura effectivement une belle surface chauffante.
Mmh.
Et quand même, il y a quand même un truc, moi ce que j'ai retenu, c'est que le processeur il vient de chez AMD,
j'ai bien compris.
Et AMD n'est quand même pas connu pour faire des processeurs qui soient particulièrement légers en termes de dégagement de chaleur.
Exactement, leurs processeurs classiques PC sont un petit peu des fours quoi.
Aux alentours de 120 fours, watts quoi, on est quand même...
Ouais, on est même parfois sur du 140, mais les dernières générations, vu qu'ils avaient du retard en performance sur Intel, ils ont dû faire du gros TDP, donc ils sont sur du 125, et ceux de deux années avant, c'est du 95, alors que ceux d'Intel, c'est plutôt vers les 80 ou 70 quoi.
Voilà, donc du coup, au minimum, chauffe
tasse. Mais, précision, AMD fait des API, tu sais, donc ils sont une combinaison du processeur et d'une carte graphique, grosso modo, on va faire dans le gros, qui eux sont assez légers quand même. Ils dépassent, il y en a 65 watts, d'autres de 65, si je dis pas de plus.
Aïe. Ton micro est horrible.
Mais où est-ce qu'il va ce micro?
Mon dieu, mais il est parti.
Il veut pas parler de la PlayStation 4.
Il veut pas parler, oui. Il s'est tiré. Il a décidé, c'était pas pour lui, il se casse.
Il se casse.
C'est tout, c'est comme ça.
Il est là,
mais il a un peu du mal. Bref, donc effectivement, le processeur, c'est de l'AMD. Donc c'est vrai que le processeur de l'AMD, de la GDDR5, il va quand même y avoir du gros ventilo pour faire tourner ça. Je vois difficilement quand ils peuvent faire autrement. Sauf si c'est la première console à intégrer du water cooling de série. Là, franchement, je dois avouer que... Sincèrement, là, je serais impressionné. Là, surtout si on peut faire le water cooling à la binouse. Là, franchement, alors là, rien à dire.
Ah ouais, la carte.
Alors, c'est-à-dire, si t'arrives à avoir ta PlayStation 4 avec un petit tonneau d'Heineken à côté, tu sais, pour la recharger, moi, franchement, là, je suis client. Là, je suis carrément client.
Mais basiquement, que ça puisse être amovible, parce que comme ça, l'hiver, tu peux poser tes pieds sur la console pour les réchauffer.
Voilà, ou directement la mettre dans ton lit pour faire bouillotte. C'est pratique.
Qui soit à la fois à la mode pour l'été, pour l'hiver. Quoi.
Ça, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. C'est assez curieux d'ailleurs le choix d'AMD, parce que ça va faire une architecture qui va finalement être très très proche d'un PC, un PC un petit peu sous stéroïde, mais enfin sous stéroïde, faut le dire vite, parce que c'est vrai que 8Go de RAM aujourd'hui, c'est quand même peut-être pas le standard, mais c'est quasiment ce que tu trouves dans les PC bas de gamme dans n'importe quel magasin. Donc,
en fait, c'est le standard, mais c'est le standard à peu près 8Go. Du moins pour un PC. Moi j'ai 3Go, tout va très bien, mais je veux dire.
Tu fais rien tourner du tout sur ton PC.
Micro machine 64 en émulateur, quoi, tu vois.
Voilà, c'est pas mal, mais je veux dire, 3Go de RAM, tu les manges pas, quoi.
Ouais, voilà, non, mais ça va, faut être économe aussi. T'es pas obligé de lancer 3 sessions de Photoshop derrière ton Crysis 3, quoi, tu vois.
Bah, ça dépend, moi j'en connais qui aiment bien faire ça, c'est qu'on compte 3 écrans, qui lance Photoshop d'un côté, Crysis 3 de l'autre, et puis le dernier truc, il lance CPU d'or, histoire de rigoler, quoi.
Il y a même beaucoup de mecs pour qui pouvoir lancer deux jeux en même temps plus Photoshop est une condition
C'est ça qui détermine l'achat de l'arme.
Mais c'est pareil pour la PS4, hein. Moi, je suis désolé, hein, mais effectivement, si elle n'est pas capable de faire du double écran 4K.
Exactement.
Moi, franchement, j'achète pas. Hein.
Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Trop inutile.
Parce que c'est vrai qu'ils auraient trouvé une bonne solution pour contrer le Gamepad, c'est de dire, mais vous avez qu'à acheter une deuxième télé Sony.
Exactement.
Et puis vous branchez la PlayStation 4 sur les deux.
Voilà. Et dans, sur un écran, vous avez le jeu, sur l'autre, vous trimez Gangnam Style ou un truc du genre. Puis voilà.
Non, mais non, t'as la map, quoi. Je veux dire, un écran plasma pour avoir la map, moi je trouve que c'est legit, quoi.
Ouais.
Franchement.
Normal.
Par contre, il y a quand même une question que je me pose, tu pourras peut-être arriver à me répondre, c'est finalement. Non, t'as décidé que non. On va arrêter l'émission ici.
L'émission suivante. Hein,
voilà. Je m'en vais, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il faut aussi participer, quand même.
Voilà.
La PlayStation 2, l'un des arguments de vente, on va dire, auxiliaire, c'était le lecteur DVD.
Ouais.
Alors c'était quand même un peu bidon parce que c'était censé être le lecteur DVD le moins cher du marché. Moi, personnellement, mon premier lecteur DVD de salon, je l'ai acheté genre un mois et demi après la sortie de la PlayStation 2, je l'ai payé 4 fois moins cher.
Ah ouais.
Donc je sais pas où les mecs ont pu jouer ça, mais moi j'ai jamais payé ça. Voilà. La PlayStation 3, le gros argument de vente auxiliaire, c'était le Blu-ray. C'est-à-dire, c'était de dire, voilà, c'est le vrai centre multimédia du salon. Pareil, c'était censé être le Blu-ray le moins cher du marché. Il est sorti à 600€. Moi, j'ai acheté mon premier lecteur Blu-ray 3 mois après, je l'ai payé 150.
Normal.
Donc j'aimerais comprendre de cet argument de c'est le lecteur le moins cher du marché. Je veux dire, un jour, il faudra m'expliquer, mais c'est pas grave. Mais alors, sur PlayStation 4, ils vont faire quoi? Les disques optiques holographiques?
Ah bah pourquoi pas, voilà.
Voilà.
T'as engagé
Sony pour la com. Non, mais ils ont rien du tout là-dessus.
Mais non, mais justement, comme ils ont rien, pour vendre ça comme un media center, et voilà.
C'est ouais, ce mais que du je coup, la PS3 le fait déjà. Je veux dire, elle fait déjà.
Ouais,
elle fait déjà du DLNA, elle fait déjà du Blu-ray, elle fait déjà de la VOD.
Pour le grand public, je sais pas si le grand public utilise tout ça, ni dans quelle mesure, mais pour le grand public, ils ont acheté un lecteur Blu-ray, ils ont pas acheté un media center, tu vois. Donc là, ils auront un nouveau media center.
Ouais. Ou alors ils vont rajouter des fonctionnalités type magnétoscope numérique, quoi.
Ouais, je par exemple, que ça. Voilà. Ou alors ils vont rendre un service exclusif à la PS4.
Tu te rappelles le PlayStation TV qui nous avait été présenté en grande pompe il y a le 3
ans? Oui,
une
combinaison d'une télé plus d'une PS.
C'était un récepteur TNT. Non, c'était un récepteur TNT qui se collait sur la PS3.
Ouais.
Et où tu pouvais capter la télé, mais pas en haute définition. C'était quand même assez drôle. Et tu pouvais rien faire de plus, quoi. Ça nous a été présenté en grande pompe comme la grande révolution. Enfin bon, le bullshit habituel de Sony, quoi.
Ah non, mais là on sait pas du tout ce qu'ils vont vendre. Parce que honnêtement, bon, à part le fait que la console, on sait qu'elle sera relativement puissante, si tout va bien. S'ils changent pas d'avis d'ici la plus de présentations dans 3 mois à l'E3. Cube, mais bon, ouais, je sais pas. Moi, je suis pas du tout. Je trouve pas ça. En plus, ils vont la vendre au moins à 400 boules, quoi.
Et ben là, on parlait de 600 boules, hein.
Minimum.
On parlait de 600 boules pour le prix de sortie.
Donc, je sais pas. Pour ça, moi, je te monte un PC, quoi.
Ouais, non, effectivement. Non, mais le problème, t'as le même problème avec plein de consoles, mais t'as le même problème avec la PS3 à son lancement, finalement. T'es beaucoup trop cher. Mais sur ça, je trouve que le revirement de Sony est quand même curieux. D'un côté, sur PS3, t'avais le « on a le meilleur processeur du marché ». Alors, ok, personne s'est programmé dessus, mais c'est pas grave, on a le meilleur. Puis là, tout d'un coup, c'est « bon, bah finalement, on va prendre un processeur de PC pour simplifier la vie à tout le monde ».
Ouais.
Enfin, je sais pas, c'est bon, un peu curieux.
Mais on va quand même caler 8Go de DDR5.
Et on va quand même caler 8Go de GDDR5 pour faire plaisir.
Que la PU pourra peut-être pas gérer convenablement tout à la fois, on se demande bien à quoi ils vont servir. Mais bon, on sait jamais.
Voilà, non mais t'as plein de choix de design de la console. C'est-à-dire, la PS3, il faut savoir que la mémoire vive n'est pas unifiée.
Oui,
on va peut-être
exactement
expliquer ce petit point technique pour nos auditeurs qui seraient peut-être pas très au fait de ça. Techniquement, un CPU et un GPU, donc un processeur central et un processeur graphique, c'est deux processeurs qui ont des propriétés très différentes.
Qui
font pas du tout la même chose. Grosso modo, le CPU, c'est un petit peu les 3 paquets de 1000, alors que le GPU, c'est plutôt 1000 paquets de 3.
Le GPU
fait beaucoup d'opérations en parallèle, mais des opérations extrêmement basiques. Alors que le CPU a tendance à faire des opérations plus complexes, mais du coup, un petit peu moins en parallèle, sur des durées un petit peu plus longues. Donc l'intérêt d'avoir une mémoire vive réservée au CPU, une mémoire vive réservée au GPU, pour un programmeur de jeux vidéo, c'est un peu con. Parce que finalement, tout avoir dans la mémoire vive et être capable de dire au CPU de faire certaines opérations et de dire au GPU de faire d'autres opérations, mais sur les mêmes textures, les mêmes polygones, la même IA, c'est beaucoup plus intéressant.
Ouais,
la PlayStation 3 n'était pas conçue comme ça du tout. C'est pas de la mémoire unifiée.
Exactement.
Il y a bien une partie mémoire centrale, une partie mémoire graphique.
avec la mémoire unifiée, tu as une limitation qui est que, du coup, comme la même mémoire est partagée par la partie graphique et la partie calcul pure, on va dire, ça veut dire que le bus de transfert entre la mémoire et les processeurs de calcul est le même aussi. Il est plus vite engorgé que quand on a deux mémoires séparées avec deux bus séparés.
Voilà, donc c'est basiquement c'est la méthode de transport, parce que effectivement la mémoire vive elle est quand même un peu loin de l'unité centrale qui fait le traitement, donc il faut bien arriver à transporter les données. Effectivement, c'est partagé. Maintenant, je trouve que les choix techniques de Sony sont très discutables, parce qu'ils nous avaient affirmé exactement le contraire il y a seulement 5 ans en disant mémoire séparée c'est mieux, processeur spécialisé c'était mieux. Puis là finalement on revient à du processeur super générique, de la mémoire unifiée. Finalement, une architecture très proche d'un PC, même si la mémoire unifiée sur PC, bon, c'est pas encore tout à fait ça.
Ouais.
Il y en a un peu sur les APU. Il y en a sur les APU, justement. Donc voilà. Mais c'est quand même très très curieux. Finalement, l'argument de vente du Blu-ray, là, il n'y a plus. Enfin, il y aura forcément du Blu-ray, mais.
Ouais.
Voilà, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Puis en plus, ils ont quand même réussi l'exploit de ne pas être capable de présenter un design de la console.
Ça, à la limite, on s'en carre le fion, mais.
Ça dépend. S'ils ont un ventilo de 400 mm devant pour arriver à refroidir toute la merde qui est dessus, moi j'en ai pas rien à foutre.
C'est Miyamoto qui va être content.
Mais
carrément. Mais ils ont déjà tellement dû faire d'efforts pour présenter leur manette que bon, tu vois, fallait pas trop.
Enfin, présenter leur manette, ça fait combien d'années qu'elle a pas changé la manette?
Mais justement, là, elle a changé.
Ah oui, il n'y a plus de bouton select. Il n'y a plus de bouton select, ça va être la fin du monde. Il n'y a plus de bouton select.
Il n'y a plus de start non plus.
Il n'y a plus de start.
Il y a un bouton option, il remplace les start et select. Tu vois?
Mais comment tu vas faire sans bouton select? Je veux dire, moi sans bouton select, je suis perdu.
Ah, mais tu vas appuyer sur. Il va falloir que tu te forces à appuyer sur option. Ensuite, tu devras faire haut et bas avec ton stick et appuyer sur croix ronde ou ce que tu veux. Ou tu claques la manette dans le mur, tu changes de console et c'est bon quoi.
Effectivement, c'est une autre solution. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la problématique. Alors, ça fait un peu effet poudreuse, j'ai envie de dire. Un peu poudre aux yeux. Je sais pas comment dire. Ça fait un effet bœuf sur le forum du dojo. C'était de dire putain, ils ont encore laissé les sticks symétriques, certes, mais centrés, plutôt que de les mettre directement sous les pouces. Alors, c'est vrai que j'ai quand même un peu du mal avec ce design-là, et ça fait effectivement 15 ans, peut-être même 20 ans maintenant que je dis à force de dire 15 ans.
17 ans au moins.
Ça fait au moins 17-18 ans que ça n'a pas changé, ça.
Non, que ça reste une manette de merde.
Ok, t'as un bouton option, ok, t'as un bouton share, ok, t'as un petit écran tactile, on sait pas trop à quoi il va servir pour l'instant d'ailleurs.
Non.
Mais basiquement, la manette n'a quand même pas évolué depuis quasiment 15 ans.
Non, pas des masses. Après avoir la prise en main, ils ont quand même changé un petit peu. Les poignées ont l'air un petit peu différentes, elles ont l'air moins pénibles que celles de la DualShock et faites d'un revêtement plus proche de celui de la 360 que des DualShock pourris. Mais je crois que même en fait j'ai jamais vu une DualShock 3, tu vois,
de la PS3,
donc
si
ça tombe c'est déjà le même revêtement que sur la 360, ou je sais pas s'ils ont gardé le revêtement pourri de l'époque de la PS2.
Je crois que c'est le même revêtement pourri. La mémoire de mes doigts se rappelle encore de cette texture un petit peu désagréable qui colle.
C'était sûr que c'est la manette qui colle avec la texture désagréable sans tes doigts.
Ah merde, c'est peut-être pas ça.
Je me dis de merde.
Voilà. On va peut-être en rester là du coup. L'open bar c'est fini. Allez, le mot de la fin, hein, donc un petit dernier pour la route.
Pédale.
Cyclomoteur.
Voilà. Cyclomoteur.
Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, bonsoir à tous nos auditeurs et on se retrouve, on l'espère, dans 2 semaines pour un autre dojo bar.
Si on est vivant.
Si on rentre vivant.
Ouais.
Allez, à dans 2 semaines.
Bonne nuit.